Jean-Marc Léger. Jean-Marc, bonjour.
Oui, bonjour Paul. Je vous écoutais si vous me permettez.
Oui, parce que je sais que
situation-là,
vous connaissez très bien les États-Unis, vous intéressez beaucoup à la situation aux États-Unis aussi.
Ben, c'est parce que la situation actuelle qu'on vit aux États-Unis et même au Canada et partout dans le monde, c'est le premier phénomène post-pandémie, cette manifestation-là sur le racisme. C'est plus gros que les perceptions sur le racisme. C'est vraiment toute la frustration, l'inquiétude, l'inutilité des gens qui ressort là-dedans. C'est pour ça que l'impact est aussi grand. On dit qu'on sera plus jamais pareil. On a une première démonstration mondiale, parce que c'est dans plusieurs pays du monde où les gens se rebellent. Vous savez, faut placer ça directement dans le contexte où ça fait 12 semaines que les citoyens sont confinés. Et là, il y a une manifestation où personne ne respecte les mots d'ordre de distance entre vous et moi.
Ben voilà, voilà.
Mais c'est l'émotion des terriens qui s'exprime.
Mais évidemment, nous sommes passés en quelques heures, Jean-Marc, vous avez longue expérience dans les médias, c'est clair et net. Nous sommes passés en quelques heures à une nouvelle qui nous a polarisés, qui nous a transformés dans notre quotidien, de façon jamais vue dans notre existence. Nous sommes passés en quelques heures à une autre mobilisation, une autre polarisation dans la nouvelle qui nous interpelle tout autant, là.
Ben, je dirais qu'on est passé d'un virus à l'autre, hein? De la pandémie au racisme, ouais. Deux virus qui sont insidieux dans la population. Mais tout ça démontre pour moi aussi la fragilité émotive des gens. Les gens, on a vu le problème de santé, là, celui du COVID. Les Québécois et les Canadiens ont peur. 51% des gens, donc une personne sur deux qui nous écoute présentement, ont encore peur du virus. Il y a même 24% des gens qui connaissent quelqu'un dans leur entourage qui a été atteint du virus. Donc, c'est devenu très, très concret. Ça s'est transformé dans une peur économique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. 19% des Canadiens ont perdu leur emploi. Puis beaucoup de gens, 40%, ont eu une perte de revenus. Et là, ça se transforme de façon insidieuse dans un problème de santé mentale. Les gens sont émotivement épuisés de ce confinement-là. Et on le revoit, on le remarque dans les sondages, Paul.
À hauteur de quel pourcentage?
Oui, vous avez 15% des Canadiens qui nous disent à ce moment-ci qu'ils ont un mauvais ou très mauvais état de santé mentale. Une personne sur 7.
C'est énorme quand même.
C'est énorme et c'est une auto-évaluation parce que c'est la limite de ma science. Moi, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent. Dans la réalité, peut être nettement plus élevé que ça parce qu'il y a des gens qui vont cacher cet état-là parce que c'est jamais bien vu d'avoir un déséquilibre mental. Donc, ce que je dirais, c'est que c'est un minimum 15%. Et c'est toute la peur, les effets, il y a des gens qui sont dépressifs, des gens qui se sentent inutiles. C'est toute cette émotion-là là, qui joue présentement et qui est en train de ressortir. Ça, c'est population générale. Mais Paul, quand je travaille des chiffres, je regarde derrière ça, le pire, c'est les 18-24 ans.
Ça, là, c'était une génération, quand je dis une génération, non, un créneau, dont on n'a pas beaucoup parlé. Rappelez-vous, il a fallu rappeler au gouvernement, « Hey, il y a des ados qui peut-être ne filent pas là en ce moment. » Ça a pris du temps. On s'est intéressé, évidemment, à cause de la crise, des résidences pour aînés, donc un groupe d'âge plus avancé, plus vulnérable. Mais voilà un groupe d'âge qui était à risque aussi.
Qui est à risque, qui est plus fragile, parce que oui, ils sont jeunes, ils sont fringants, ils sont activistes, ils sont réveillés, ils sont magnifiques, les jeunes, mais ils sont aussi fragiles. 20% des gens disent que leur santé mentale ne va pas bien. 20%, un jeune sur cinq. Il y a un article ce matin sur le site de Radio-Canada, si vous me permettez de le citer, là, où il y a un médecin qui dit, un psychiatre qui dit que les guerres, les catastrophes, des menaces concrètes. Mais un virus, c'est quelque chose qui n'est pas concret, qui est plus anxiogène, particulièrement pour la jeune génération qui n'a jamais eu à affronter des difficultés aussi énormes. Ils ont perdu leur travail. La moitié des jeunes ont perdu leur travail. Le taux de chômage chez les jeunes est de 31%. Donc, ceux qui travaillaient, la moitié ont perdu. Leur année scolaire s'est terminée tout croche. Ils ont perdu leur repère. Et Statistique Canada a sorti une donnée dernièrement, Paul, que moi, je parle de 20% des gens qui disent que ça va mal. Mais 64% des jeunes, les deux tiers, disent que ça va pire, ça va moins bien qu'avant. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont tombés dans un problème de santé mentale, mais disons que le moral est affecté. Et les jeunes vont aller manifester demain, vous allez les voir partout, mais il y a une émotion qui se canalise présentement, puis il faut faire attention à jouer avec cette émotion-là des jeunes.
Êtes-vous d'accord à dire que comme il n'y avait pas de date d'échéance à cela, quand on est dans un conflit, on se dit, il va y avoir un gagnant, il va y avoir un perdant, on est mieux d'être sur le bord des gagnants. On savait très bien qu'au lendemain du 11 septembre, les États-Unis d'Amérique avaient tous les moyens pour pouvoir ne pas voir leur nation se désintégrer à cause de ces terribles événements, mais ils avaient le contrôle de la situation. Là, Jean-Marc, on est encore avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Va-t-il y avoir une deuxième, une troisième vague? Chaque fois qu'on sort, chaque fois qu'il y a un rassemblement, là, ce sont les manifestations, est-ce que ça va créer une nouvelle éclosion? Bref, il y a ce sentiment d'incertitude et voire même, dans certains cas, d'anxiété chronique là, qui s'installe.
Oui, ce qui est élevé, parce que vous mentionnez la notion de la deuxième vague dans le sondage qu'on publie. Nous, à chaque semaine, on publie un sondage avec la presse canadienne qui est publié sur notre site et qui est gratuit pour tout le monde. Pour voir l'état de la population, c'est notre contribution à la crise. Et ce que vous venez de mentionner, 76 % des Canadiens disent qu'il va y avoir une deuxième vague.
Et ça, c'est beaucoup.
Oui,
trois Canadiens sur quatre qui sont convaincus.
Qu'il y a une deuxième vague.
Oui, oui.
Ils sont persuadés. Donc, à l'automne, après le retour, après l'été, on pense qu'une deuxième vague. Et ça perturbe la vie de tous les jours. Ceux qui planifiaient des vacances se disent, vais-je aller en vacances en septembre, même en juillet ou en mois d'août, qu'est-ce que je fais? Qui est le moment, dans le fond, que plusieurs attendent toute l'année. Et là, on se dit, même mes vacances sont perturbées. Un Canadien sur deux a annulé ou modifié ses vacances. Puis actuellement, il y a juste 8 % des gens qui ont toujours l'intention de poursuivre leur plan de vacances.
Les vous avez fait un sondage quand même sur cette intention de plan de vacances estivales. Écoutez, quand on n'a pas la permission de faire des voyages librement, parce que c'est un peu ça, Ottawa dit encore, ne faites pas de voyage à moins que ce soit essentiel. La frontière est encore fermée là, jusqu'au 21 juin. Avec les
personne
États-Unis.
A l'intention d'aller aux États-Unis et de prendre l'avion. Hein. C'est la majorité des gens disent on attend le vaccin ou à limite on attend 2021.
Ben c'est parce que, Jean-Marc, iriez-vous aux États-Unis? Pas d'assurance voyage? Voyons
non,
donc.
Et surtout que moi, j'ai la convention démocrate que je devais aller au mois d'août dans le Wisconsin et je devrais replanifier mes vacances qui devaient se faire autour de cela.
Alors
mais tout le monde est comme ça.
Dans ce sondage que vous avez fait, donc, les Québécois n'ont pas le choix, mais les Canadiens aussi, on reste chez nous.
On reste chez... Ben là, il y a un avantage, par contre, parce que les gens, de plus en plus, veulent prendre des vacances courte durée et autour de chez eux. Donc, l'argent qui s'en allait à l'extérieur du Québec risque de rester au Québec. On appelle ça, l'expression américaine, c'est « staycation ». On reste chez nous ou autour de chez nous. Ce que je dirais, c'est que cette année, c'est l'année du road trip. On va prendre notre auto, au lieu de prendre l'avion, on va se rendre autour, on va visiter un peu. Ce qui veut dire que si on ouvre un peu puis on déconfine, ben les gens vont rester au Québec, mais ils vont aussi aller à des endroits ouverts. On veut pas se retrouver dans un cinéma ou même dans un hôtel. On veut aller dans les campings, on va aller dans des endroits où on est de plus en plus sûr, dans les parcs nationaux ou ailleurs, parce qu'on veut être certain que le virus sera pas là. Mais Paul, moi je regardais les données sur le virus là, et ça va pas si mal. Hein. Le nombre de cas diminue de façon radicale à l'extérieur de Montréal.
Ouais.
Montréal aussi, là,
c'est ça,
à l'extérieur de Montréal. La situation s'améliore beaucoup plus que les gens le pensent.
Oui, mais ça crée deux Québec, Jean-Marc. Avant de partir en road trip au Québec, il faut sentir qu'on est le bienvenu si on vient de Montréal. Et vice-versa, je comprends Pascal Bérubé qui avait répondu au premier ministre cette semaine. « Hey, on a un très bon bilan dans notre région. On veut bien être conscient que l'industrie touristique, c'est une industrie énorme, mais on ne veut pas non plus que tout reparte dans la mauvaise direction. »
Les gens de Nouveau-Brunswick, ils sont pas certains d'ouvrir la frontière avec le Québec pendant l'été parce qu'ils veulent pas de Québécois, parce qu'ils trouvent qu'ici, qu'il y a trop de cas. Mais ça évolue vite, la situation. On arrive dans une nouvelle normalité. Puis vous avez dit plus tôt qu'on ne sait pas. Il y a un élément d'incertitude qui crée un peu d'angoisse chez les gens. Un élément d'incertitude, on ne sait pas vers quoi on s'en va. On n'a jamais affronté quelque chose comme ce type de virus-là. Mais tôt ou tard, on va s'en sortir. Le problème, c'est combien de temps, Paul?
Mais c'est comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de date de péremption. Si vous achetez, Jean-Marc Léger, un yogourt, il y a une date. Vous pouvez y croire ou ne pas y croire. Peut-être que vous ne mourrez pas en le mangeant le lendemain. Mais si on vous dit que votre yogourt est bon jusqu'au 1er juillet, au moins vous savez ce qu'on va faire avec. Tandis que là, on est
temps... Et même ma femme va le prendre quelques semaines plus tard, même.
Ouais, moi aussi. Mais pas mon fils, parce que j'ai un fils, moi, qui vit des dates de péremption. Et puis je disais, mais non, regarde, ma génération avant toi... Vous pourriez dire ça à votre fils aussi, Jean-Marc, vous pourriez dire, votre génération est obsédée sur des détails que nous autres, on n'avait pas dans le temps. Mais ça, c'est une autre discussion. Ce que je voulais dire, en terminant, Jean-Marc Léger, c'est que, comme l'avenir... On ne le connaît pas, on n'arrive pas à le cerner comme tel. Il y avait beaucoup d'optimisme dans l'air au sujet de la production d'un vaccin, beaucoup plus tôt que prévu. Ben, à ce moment-là, l'arrivée d'un vaccin début 2021, fin 2020, va changer la donne. On ne sera pas dans la même situation dans un an, là.
Non, exactement, mais là, on va être dans un autre débat. Est-ce que le vaccin doit être obligatoire ou non? Parce que c'est pas tout le monde qui veut se faire vacciner. Il y aura toujours des débats, mais au moins, ce sera des débats qui sont moins dangereux que celui de la pandémie qui a, dans le fond, qui a fait reculer l'économie, qui angoisse les gens, qui a eu un impact considérable sur notre manière de vivre. Et on n'a pas fini de vivre de cette nouvelle normalité-là. On va apprendre à comment aller au restaurant, comment reprendre l'avion, comment... Oui, c'est comme un nouveau-né, on doit réapprendre à vivre.
Oui, et puis évidemment, là, avec cette réalité, vous l'avez dit, ce second virus, du racisme, mais aussi de la perception de l'autre dans un contexte de pandémie, ça fait beaucoup de choses à absorber en même temps.
Il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que les gens angoissent un peu, mais nos gouvernements, au moins, il y a un élément majeur dans cette année-là, c'est que la confiance est revenue dans les institutions, dans l'importance du gouvernement, dans l'importance de vivre ensemble, même dans les politiciens. Vous savez, moi, je viens d'une famille de politiciens qui ont été critiqués tout le temps. Là, on a des taux de popularité des premiers ministres québécois.
C'est incroyable, hein?
Extraordinaire. Et ça, au moins, on parce que dans le fond, on veut que les leaders aient raison. C'est plus que la personne, c'est plus que le parti politique, c'est eux qui doivent nous sortir de là.
Et on a redonné, enfin, des lettres de noblesse à la communauté scientifique, qui était toujours dans le travail qu'on appelle dans l'ombre. On ne s'y intéressait pas tellement. Beaucoup de politiciens, d'ailleurs, par mécanisme là, de réflexe de politiciens, coupaient dans les recherches, dans les laboratoires. C'est maintenant très populaire.
Mais je rajouterais aussi la confiance dans les médias traditionnels.
Aussi.
Parce qu'on s'est aperçu que les médias sociaux colportent tellement de fausseté qu'on ne peut pas s'y fier. Fait que le niveau d'écoute de la radio a augmenté, le niveau de lectorat des journaux a augmenté, les bulletins de nouvelles ont augmenté. Les médias traditionnels sont redevenus la référence. C'est la nouvelle normalité. Là.
Alors, merci beaucoup, Jean-Marc. Toujours très intéressant. Et je vais en conclure en disant que, et je suis le premier à m'en réjouir, on a tellement de belles régions au Québec à découvrir. Des fois, on va courir à l'autre bout du monde. On va traditionnellement dans telle région des États-Unis. Mais chez nous, on a des coins de pays extraordinaires à découvrir. Merci
beaucoup. Mon père était ministre du tourisme.
Je le sais.
Comme c'est bonjour. Venez nous dire partout.
Bon, me rappelle, bien sûr, je l'imitais, votre père, en plus.
Je sais.
Merci, Jean-Marc Léger.
Au plaisir.
Au revoir. C'est quand même inquiétant. 20 % des répondants là, qui disent « Ouais, j'ai des problèmes carrément de santé mentale suite à ce que nous venons de vivre au cours des derniers mois. » J'espère que ça ne va pas se traduire par une augmentation du phénomène de genre post-traumatique, peut-être. On verra bien.